que vous avez annoncé pour aujourd'hui de vous parler du début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, je vais vous parler d'une autre chose un petit peu différente, qui est la fin de sa vie cachée. Elle n'est pas tout à fait la même chose. La fin de sa vie cachée, bien qui est précisément sa première apparition en public, à l'occasion de son baptême, mais qui n'est pas encore directement sa vie publique. Ce n'est pas encore le début de son ministère. Oui. Ensuite, il y aura les 40 jours de jeûne au désert, la tentation, et c'est après qu'il va commencer directement, bon, proprement, sa vie publique. Oui. Et pour l'instant, cet épisode du baptême de notre Seigneur marque un peu plutôt la fin de sa vie cachée. Et à cette occasion, bien, nous allons parler d'un personnage qui est un personnage extraordinaire. C'est le personnage de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, pour lequel l'Église a d'ailleurs une dévotion tout à fait particulière, hein, tout à fait spéciale, c'est extraordinaire. Bon, notre Seigneur lui-même a fait de Saint Jean-Baptiste un éloge unique. Ici, c'est bon père Lebouch, avec lequel, bon, il y avait parfois des disputes, mais tout à fait courtoises, bien sûr, et tout à fait paisibles, pour savoir quel était le plus grand saint. Est-ce que c'est Saint-Joseph ou est-ce que c'est Saint-Jean-Baptiste? Eh bien, je ne trancherai pas, hein, je vous laisserai trancher vous-même, parce que, bon, voilà, il est difficile de se prononcer, Dieu seul pourra nous donner la réponse lorsque nous arriverons au ciel. Mais il est vrai que Saint-Jean-Baptiste, quand même, jouit dans l'Église d'une considération tout à fait particulière. Et il est le seul saint, si nous prenons par exemple la liturgie, il est le seul saint dont l'Église fête la nativité. Il n'y en a pas d'autre. Le 24 juin, nous fêtons la nativité de Saint Jean-Baptiste. Et le 29 août, nous fêtons la décollation de Saint Jean-Baptiste. Et il n'y a pas beaucoup de saints dans l'Église qui sont fêtés deux fois. Saint Joseph est fêté deux fois. Mais on ne fête pas la nativité de Saint Joseph. Alors que nous fêtons de façon liturgique. Hein. Et c'est une fête de première classe, donc une des fêtes les plus grandes dans l'Église. Fête de première classe, la nativité de Saint Jean-Baptiste le 24 juin. Et c'est même une fête qui est honorée d'une vigile, actuellement encore, hein, dans la liturgie de que Jean 23 a un petit peu réformé. Eh bien, cette fête de Saint Jean-Baptiste a conservé une vigile. Il n'y a pas beaucoup de fêtes dans l'Église catholique qui ont des vigiles. Bon, il y a Noël et la Pentecôte, ce sont les deux grandes vigiles. Ensuite, il y a des vigiles un petit peu plus de deuxième classe. Vous avez l'Ascension, l'Assomption, Saint-Pierre et Saint-Paul et Saint-Jean-Baptiste. Oui, donc l'Église le met presque un petit peu à ce niveau-là. Puis ensuite, vous avez une autre vigile de troisième classe qui est Saint-Laurent. Oui, donc déjà, c'est un enseignement quand même de cette dévotion toute particulière que l'Église a pour Saint-Jean-Baptiste. Oui. Et les saints dont on fête la nativité, en fait, il y en a trois. Vous avez notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, dont on fête la naissance le 25 décembre. Vous avez Notre-Dame le 8 septembre et Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Bon, oui, quand même un rang tout à fait particulier. Et c'est le saint également qui apparaît au cours de la messe. Vous voyez, au cours de la messe, à plusieurs reprises, il y a des saints qui sont invoqués, qui sont nommés. Et vous avez Saint-Jean-Baptiste qui est nommé, par exemple, dans le Confiteor. Ce confiteur que nous disons au début et ensuite avant la communion, vous avez Notre-Dame qui est invoquée, vous avez Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre et Saint-Paul et tous les saints. Mention spéciale pour Saint-Jean-Baptiste. Également dans la prière de l'offertoire, la prière qui conclut l'offertoire, hein, le Suscipe Sancta Trinitas, également, là le prêtre invoque, mentionne Notre-Dame, Saint-Pierre et Saint-Paul et Saint-Jean-Baptiste. On le trouve encore d'une façon un petit peu indirecte. Au moment où le prêtre va donner la communion, lorsqu'il se tourne vers les fidèles, il leur dit « Ecce Agnus Dei, Ecce Gutolit Peccata Mundi », à qui sont empruntées ces paroles? À Saint Jean-Baptiste. Et puis enfin, le dernier évangile, c'est ce très beau prologue de Saint Jean, dans lequel, eh bien, nous entendons justement parler de Saint Jean-Baptiste, sous la plume de Saint Jean. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Bon, c'est Jean-Baptiste, hein, attention, c'est pas Jean l'apôtre, hein, celui-ci. Hein. Celui-ci vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière, etc. Dans les litanies des saints, lorsque nous commençons les invocations, par quel saint est-ce que l'on commence les invocations? Saint Jean-Baptiste, avant Saint Joseph. Alors je ne veux pas trancher, savoir lequel est le plus grand des deux. Saint Jean-Baptiste qui envoie ses désenvoyés à Notre Seigneur depuis sa prison, et Notre Seigneur parle à la multitude, et qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau agité par le vent, etc., etc. Qu'êtes-vous donc allé voir, un prophète? Oui, je vous l'ai dit, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, ça c'est dans Malachie, prophétie de Malachie, « Voici que j'envoie mon ange devant ta face pour préparer le chemin devant toi. Et je vous le déclare en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'est point de prophète plus grand que Jean-Baptiste. » Bon, voilà l'éloge de Notre Seigneur. Et Notre Seigneur était un homme, je dirais, économe, d'éloges et de compliments. Quand il faut en faire, il en fait, bien sûr. Et là, c'est un compliment, c'est un éloge assez extraordinaire, quand même, sur la bouche du Rédempteur, à l'adresse de Saint Jean-Baptiste. Oui. Et toutefois, ajoute-t-il, le plus petit dans le royaume des cieux est encore plus grand que lui. Et bien sûr, le plus grand saint ici-bas est encore plus petit que le plus petit saint, dans la béatitude, dans la gloire céleste, c'est clair, ça c'est d'un autre ordre. Oui. Qu'est Saint Jean-Baptiste, et un auteur disait qu'il fallait, qu'on ne savait trop ce qu'il fallait admirer chez Saint Jean-Baptiste, la magnificence de ses privilèges, des privilèges assez extraordinaires, effectivement, nous verrons, la beauté austère de son caractère, beau caractère Saint Jean-Baptiste, très fort mais très, très humble également, oui, très discret. La grandeur de sa vocation, sa vocation unique, être le précurseur, ouvrir la voie, annoncer le Sauveur, et bien ça, il n'y en avait qu'un. L'élévation de sa doctrine, c'est sa prédication, son enseignement, ou bien l'héroïsme de son martyr. Nous en parlerons peut-être un petit peu. Et si vous allez visiter Ars, vous pouvez visiter donc l'église du Saint Curé d'Ars, mais il y a une chapelle qui est dédiée toujours à Saint Jean-Baptiste, mais dont on a fait disparaître une inscription. Dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, au-dessus, je crois, de la statue de Saint-Jean-Baptiste, le bon curé d'Ars avait inscrit « Sa tête fut le prix d'une danse ». C'était assez éloquent. Je crois que ça ne demande pas de commentaire. Vous savez quelle était la situation de sa paroisse lorsqu'il est arrivé. Et bien, il est arrivé à la convertir et à éliminer justement tous ces divertissements un peu scandaleux, oui. Isaïe au chapitre 40, verset 3. Voici la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez la voie du Seigneur, rendez droit dans la solitude les sentiers de notre Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne et colline sera abaissée. Les chemins tortus seront redressés, les raboteux deviendront des voies aplanies. Et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair verra en même temps que la bouche du Seigneur a parlé. Oui, bon, ce texte-là que nous avons entendu il n'y a pas très longtemps, est tiré donc du prophète Isaïe au chapitre 40. Donc là, l'annonce de ce précurseur, ce n'est pas l'annonce du Messie, celle-là, mais c'est la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Et c'est ce texte-là que Saint Jean-Baptiste s'appliquera quand on lui demandera « Qui es-tu »« Es-tu le Messie »« Es-tu Élie »« Es-tu... » Non, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. D'autres considérations à faire pour montrer justement l'humilité et la faiblesse un petit peu du rôle de Saint Jean-Baptiste. Il n'est pas celui qui crie dans le désert, il est la voix de celui qui crie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une voix? Il n'y a rien de plus inconsistant qu'une voix. Il ne dit pas « je suis celui qui crie », non, c'est pas moi qui crie. Je suis la voix de celui qui crie. Et donc il ne s'attire pas justement à la gloire, ce n'est pas lui qui le prêche. Mais c'est quelqu'un d'autre qui parle par lui. Et cette autre prophétie dans Malachie, dont nous parlions un petit peu avant, qui est invoquée par Notre Seigneur justement pour désigner Saint Jean-Baptiste, c'est dans Malachie au chapitre 3. « Voici que moi, j'envoie mon ange et il préparera la voie devant ma face. Et aussitôt viendra dans son temple le dominateur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. » Et là, c'est la prophétie du précurseur et du Messie. Le précurseur, c'est mon ange que j'envoie devant ma face. Oui. Il préparera la voie devant ma face. Et aussitôt viendra dans son temps le dominateur que vous cherchez. Là, c'est le Messie. Donc, prédiction, promesse, prophétie des deux. Le précurseur et le Messie. Non seulement il est précurseur, c'est-à-dire qu'il annonce, je dirais, par sa prédication, par son ministère, mais il l'annonce même par sa personne lui-même. Oui. Car Saint Jean-Baptiste est également un type, une image, un modèle, ouais, en lui-même déjà, de ce que sera notre Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà en lui certains traits du Messie, au point que parfois les foules s'y tromperont. Certains vont le prendre pour le Messie. Il a de telles vertus, il a une telle façon de vivre que les foules s'y tromperont. Et c'est pourquoi ils viennent le voir. Mais qui êtes-vous? Dites-nous qui vous êtes. Êtes-vous le Messie? Êtes-vous Élie? Êtes-vous le prophète? Non, 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 non. Je suis la voix de celui qui crie. À une sainteté de vie et des traits de caractère tels, bien que certains s'y tromperont. Je vais vous montrer un peu, justement, il y aurait cette grande similitude qu'il y a entre Saint Jean-Baptiste et notre Seigneur. Alors bien sûr, l'auteur sacré est souvent le même, hein, c'est Saint Luc, à qui nous devons la plupart de ce que nous savons sur Saint Jean-Baptiste et également sur l'enfance de notre Seigneur. Hein, c'est l'évangéliste de l'enfance de notre Seigneur et également l'évangile du précurseur. Mais ça n'est sans doute pas par hasard que parfois eh bien, il emploie même les mêmes termes pour nous parler de Saint Jean-Baptiste ou d'un événement de la vie de Saint Jean-Baptiste et de notre Seigneur ou d'un événement de la vie de notre Seigneur. Oui. Et on peut faire effectivement un parallèle assez extraordinaire et très beau entre Saint Jean-Baptiste et notre Seigneur. Il suffit bien pour cela tout simplement de commencer à lire ce que nous dit Saint Luc, alors c'est au début de son évangile. Là. Alors, au jour d'Hérode, roi de Judée, vivait un prêtre nommé Zacharie. Sa femme, appelée Élisabeth, était comme lui de la descendance d'Aaron. Tous deux étaient justes devant Dieu et si fidèles à marcher dans tous les commandements et observances du Seigneur qu'il n'y avait rien à reprendre dans leur vie. Voilà, les parents de Saint Jean-Baptiste. Donc Zacharie et Élisabeth, descendants d'Aaron, donc Zacharie est prêtre, il est marié donc à Élisabeth, et ils sont tous les deux justes devant Dieu, justes devant Dieu. Et quand on sait la signification du mot juste, c'est pratiquement saint. Le juste, c'est le saint. Celui qui est droit, celui qui ne commet pas de péché. Hein. Et même, Saint-Luc ajoute, si fidèles à marcher dans tous les commandements et observances du Seigneur qu'il n'y avait rien à reprendre dans leur vie. Et quand on connaît un peu la loi juive, la loi ancienne, cette multitude de prescriptions, cette multitude d'observances, au point que Saint-Pierre lui-même, dans une de ses épîtres, reconnaîtra qu'il était très difficile de tout observer de la loi, et bien voici qu'on nous dit que Zacharie et Élisabeth avaient été d'une fidélité exemplaire et parfaite. Il n'y avait rien à reprendre dans leur vie. Donc une sainteté sans doute peu commune. L'évangile, bon, pour Saint Joseph, oui, si nous faisons le parallèle, vir justus, un homme juste également. Oui, même qualification. Oui. Bon, Notre-Dame, je pense que vous la connaissez. Il n'est pas nécessaire de vous décrire tous ses privilèges, hein, bien sûr. Et ensuite, si nous continuons, eh bien voici que Zacharie et Élisabeth n'avaient point de fils. Car Élisabeth était stérile. Et Notre-Dame, elle, n'est pas stérile, mais elle est vierge. Donc elle ne peut pas concevoir. Et Élisabeth ne peut pas concevoir non plus. Ouais. Et en plus, Zacharie et Élisabeth sont tous les deux avancés en âge. Quel âge ont-ils? Mais sans doute assez avancés. Hein, déjà bien, bien âgés. Donc effectivement, pas de conception possible, pas de descendance envisageable. Et c'est une tristesse pour eux, bien sûr. Hein, voilà, des justes de l'Ancien Testament. Pour lesquels une descendance était un signe de bénédiction de Dieu, bien qu'ils sont précisément, mais qui n'ont pas reçu cette bénédiction. Dieu ne leur a pas donné de descendance jusqu'à ce jour. Oui. Donc voilà déjà à ce niveau-là, eh bien, une certaine similitude. Oui. Zacharie et Élisabeth, pas d'enfant, juste. Marie et Joseph, juste, pas d'enfant. Mais elle, l'une parce qu'elle est stérile, l'autre parce qu'elle est vierge. Voilà. Et puis voici un grand événement dans la vie de Zacharie, qui déjà annonce un peu ce qui va se produire dans la vie de Notre-Dame. L'ange Gabriel, et c'est le même ange, c'est Gabriel qui va apparaître ici à Zacharie, alors qu'il est prêtre, donc il va au temple accomplir son service, et voici qu'au moment où il offre l'encens dans le temple du Seigneur, eh bien, un événement extraordinaire, un ange qui lui apparaît. Et ici, l'ange apparaît à Zacharie, au Père, ouais, et un peu plus tard, l'ange apparaîtra à Notre-Dame, à la Mère. Et que nous dit l'Évangile? Eh bien, que Zacharie fut troublé. Et Zacharias turbatus est videns, et timor irruit supereum. Il fut troublé, et même saisi d'une certaine crainte. La Vierge, elle également, va être troublée. Quand l'ange va la saluer, Ave Maria, gratia plena, Marie est troublée. Vous voyez? Zacharie est troublé, Marie est troublée. Pourquoi Zacharie est-il troublé? Eh bien, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, semble-t-il, il a une certaine frayeur devant cette apparition, là, un peu inattendue, c'est sûr. Alors que Marie, elle est troublée, pourquoi? Par la salutation. Parce que l'ange la salue comme étant pleine de grâce. Et c'est ça qui la trouble. C'est pas tellement l'apparition de l'ange, mais c'est la salutation qui la trouble. Donc un trouble, mais légèrement différent, sans doute. Pourquoi? Eh bien, parce que la sainteté de Notre-Dame était quand même plus parfaite, plus complète. Et son humilité est sans doute encore plus profonde que celle de Zacharie. C'est normal. Et voici donc cette salutation de l'ange à Zacharie. « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. » Oui, même formule presque. Oui. L'ange se sert de la même formule pour rassurer Zacharie et ensuite rassurer Notre-Dame. « Ta femme Élisabeth te donnera un fils que tu appelleras du nom de Jean. Voici que vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. » Vous voyez ce parallèle, c'est extraordinaire, je trouve ça très très beau. Ouais. Cette grande proximité, donc, ouais, même de nature, entre cet enfant qui va naître, là, Saint Jean-Baptiste, et notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Le ciel, Dieu, l'ange, eh bien, s'y prend presque de la même façon, hein, pour annoncer la conception et la naissance de l'un et de l'autre. Et ensuite, eh bien, l'ange annonce à Zacharie tous les privilèges de Saint Jean-Baptiste. Il sera ta joie et ton allégresse. Et sa nativité sera pour beaucoup un sujet de réjouissance, car il sera grand devant Dieu. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il ne fait pas de commentaire. Rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Oui, il annonce déjà ce qui va se passer dans quelques mois. Il convertira un grand nombre d'enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il précédera le Seigneur dans l'esprit et la vertu d'Élie, afin de faire revivre dans les enfants les sentiments des aïeux, etc. Oui. Donc, prophétie, cette prophétie de l'ange à Zacharie sur ce que sera ce fils. Il annonce donc le nom du fils, il faudra l'appeler Jean, et voici quelles seront ses vertus, quelle sera sa mission. Et bien de même, l'ange avec Notre-Dame fera la même chose. Hein. Donc, vous lui donnerez le nom de Jésus, il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu, etc. Vous connaissez tout cela. Et ensuite, réaction aussi similaire de l'un et de l'autre. Zacharie a été troublé, bon, l'ange lui a répondu, et maintenant voici que Zacharie interroge l'ange, mais d'un ton un peu dubitatif. « Mais comment connaîtrai-je la vérité de ce que vous m'annoncez? Car je suis un vieillard et ma femme elle-même est avancée en âge. » Et Notre-Dame aussi aura un petit peu la même réaction, mais un petit peu différente. « Mais comment cela s'accomplira-t-il puisque j'ai résolu de rester vierge ?» Vous voyez, la Vierge, dirait, n'est pas à limite étonnée de cela, mais elle demande simplement comment il faudra faire. Voilà. Comment faudra-t-il, puisque Joseph et moi, nous avons voué notre virginité, notre chasteté, comment faudra-t-il faire? Cet enfant, comment cela se passera-t-il? Alors que, oui, chez Zacharie, c'est presque à la limite une objection qu'il lui met. Oui, bon, oui. Et effectivement, oui, donc il demande un signe. Comment connaîtrai-je la vérité de ce que vous m'annoncez? Eh bien, l'ange Gabriel va lui donner un signe. Oui, ben le signe, tu l'as voulu, bien le voilà le signe. Hein. Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. Tout cela est très beau, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle, mais parce que tu n'as point une foi en mes paroles qui s'accompliront en leur temps, voici que tu seras muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Voilà, le signe est donné, mais c'est en même temps une punition. Voilà. Il ferme la bouche, tu ne pourras plus parler. Voilà. Et voilà notre pauvre Zacharie qui est réduit au silence. Et effectivement, c'est un signe qui est clair, en tout cas. Ouais. Puisqu'ensuite, eh bien, le peuple qui attend Zacharie et qui commence à s'impatienter parce qu'il trouve que ça dure un petit peu, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il ne sait pas ce qui se passe. Le peuple s'impatiente et puis le pauvre Zacharie qui sort et puis voilà, et qui est obligé de parler par geste, par signe, parce qu'il est muet. Bon, voilà, très bien. Voilà une Notre-Dame, donc, qui fait la même demande, mais un petit peu différente, oui. Comment cela se fera-t-il, puisque j'ai résolu de rester vierge? Eh bien, réponse de l'ange, l'Esprit Saint surviendra en toi, voilà. Et il lui donne également un signe, mais cette fois un signe qui n'est pas une punition, mais qu'au contraire, une lumière pour elle, une manifestation de la toute-puissance de Dieu. Et voici que votre parente Élisabeth, elle aussi, a conçu un fils dans sa vieillesse. Et celle que l'on appelait stérile en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Hein? Bon, vous savez bien sûr que cet événement de l'Annonciation se passe 6 mois après l'annonce à Zacharie. Hein? Voilà, et voici donc Zacharie qui retourne ensuite chez lui après la fin de son ministère, et dans les jours qui suivent, sa femme Élisabeth conçut. Voilà, elle qui était vieille. Et pendant 5 mois, nous dit l'Évangile, elle va rester cachée à tous les regards, se disant en elle-même. C'est comme un petit Magnificat, ça, c'est un petit résumé du Magnificat, un chant d'action de grâce. Telle est donc la faveur que le Seigneur m'a faite au jour où il a daigné lever l'opprobre qui pesait sur moi aux yeux des hommes. Une action de grâce d'Élisabeth, très beau ça. Oui. La faveur que le Seigneur m'a faite pour enlever justement cette honte, sorte de honte, eh bien, que j'avais devant les hommes de ne pas être mère, de ne pas avoir d'enfant. Voilà donc cette conception qui n'est pas véritablement miraculeuse, ce n'est pas proprement un miracle quand même. Bon, une épouse, avoir un enfant, même si elle est âgée, ce n'est pas strictement un miracle, mais c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, extraordinaire, sans doute une intervention divine. Et conception donc exceptionnelle, et puis ensuite de l'autre côté, bien sûr, pour Notre-Dame, conception virginale. Vous voyez, c'est deux événements qui, dont le deuxième, si l'on peut dire, reproduit le premier, ou dont le premier déjà annonce le deuxième. Vous voyez, déjà dans sa nativité, le précurseur annonce ce que sera la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, eh bien, l'autre événement de l'Évangile, bon, nous faisons un petit peu marche arrière, mais enfin, vous comprenez pourquoi, je pense. L'autre événement, le grand événement que nous raconte l'Évangile, eh bien, c'est la rencontre des deux. Nous avons eu la conception de Saint Jean-Baptiste, 6 mois après la conception de notre Seigneur, et aussitôt, la Vierge, poussée par le Saint-Esprit, court chez sa cousine Élisabeth. Et c'est l'événement de la Visitation, et c'est la première rencontre entre le précurseur et le Messie, par l'intermédiaire de leur mère. Tous les deux, chacun, est dans le sein de sa mère, le sein de sa maman. Et voici que dès que la voix de Notre-Dame retentit aux oreilles d'Élisabeth, voici que c'est Notre-Dame qui salue Élisabeth, qui est plus âgée qu'elle, c'est normal, elle sait vivre, même si elle est plus sainte, puisqu'elle est la mère de Dieu quand même. Elle aurait pu lui dire, mais dis donc, moi je suis la mère de Dieu, vous n'êtes que la mère du précurseur, alors. Et non, oui. C'est elle qui la salue la première, et aussitôt, dès que sa voix retentit, c'est Saint Jean-Baptiste qui reconnaît le Messie déjà, et qui tressaille dans le sein de sa mère. Dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant qu'elle portait tressaillit. Elle-même fut remplie de l'Esprit-Saint, et poussant une vive exclamation, elle s'écria. Et cet événement-là, l'événement majeur peut-être, dans la vie de Saint Jean-Baptiste, eh bien, c'est sa sanctification. Saint Jean-Baptiste est purifié, sanctifié dans le sein de sa mère. Oui. Saint Jean-Baptiste, comme tous les enfants des hommes, a été conçu, du moins, avec le péché originel. Mais il n'est pas né avec le péché originel. Il a été sanctifié dans le sein de sa mère, dans le sein d'Élisabeth, et c'est précisément le Messie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu vers lui pour le purifier, le sanctifier dans le sein de sa mère. Cette proclamation, à ce moment-là, proclamation par Élisabeth elle-même de la sainteté de Notre-Dame, hein, vous êtes bénie entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles est béni, etc., que vous êtes bienheureuse, vous qui avez cru. Et la réponse de Notre-Dame, cet hymne royal, le Magnificat, un très bel hymne d'action de grâce, de reconnaissance et d'humilité, que Notre-Dame chante à la gloire de Dieu. Notre-Dame qui est de race royale. Élisabeth, elle, est de race sacerdotale, alors que Notre-Dame, la Vierge Marie, elle, est de race royale. Et ça, c'est une hymne royale, vraiment. C'est le premier de tous les cantiques du Nouveau Testament. Il y a dans la liturgie de l'Église 3 hymnes qui sont empruntés au Nouveau Testament. Ce sont ces 3 hymnes que, par respect justement pour le Nouveau Testament, nous chantons toujours debout, comme pour l'Évangile. C'est le Magnificat que l'on chante toujours debout. Vous avez le chant du Benedictus, celui que l'on va entendre chanter tout à l'heure par Zacharie, que l'on chante à l'aude le matin. Et puis vous avez un 3e cantique, c'est celui que nous chantons le soir, c'est le Nunc Dimittis. Voyez, c'est 3 cantiques du Nouveau Testament et qui sont de la toute première enfance de notre Seigneur. Le Magnificat, c'est le chant de la Vierge au jour de la Visitation. Le Benedictus, c'est le chant de Zacharie au jour de la naissance, ou plutôt de la circoncision de Saint Jean-Baptiste. Et enfin le Nunc Dimittis, c'est le chant du vieillard Siméon au jour de la présentation au Temple. Voyez, c'est 3 hymnes qui sont, je dirais, à la limite de l'Ancien Testament, mais qui appartiennent déjà au Nouveau Testament, comme pensée, comme idée à l'Ancien Testament, parfois dans le style des psaumes ou des prophéties, mais qui appartiennent quand même au Nouveau Testament. C'est pourquoi nous les chantons justement toujours debout, comme l'Évangile. 3 mois après la Visitation, et l'Évangile nous dit d'ailleurs que Notre-Dame reste 3 mois chez sa cousine. Voici donc la nativité de Saint Jean-Baptiste. C'est toujours Saint Luc qui nous raconte cela. Nativité de Saint Jean-Baptiste, elle met au monde un fils. Ses voisins et ses parents, ayant appris que Dieu avait déployé ses miséricordes envers elle, l'ont félicité. Voilà, tous les voisins, tous les amis qui se réjouissent, etc. Eh bien, nous aurons un petit peu, bien sûr, de façon un petit peu différente, un petit peu le même événement pour la nativité de notre Seigneur. Ce ne sont pas les parents, les amis, ce ne sont pas les voisins, mais ce sont les bergers qui viennent la féliciter, qui viennent l'entourer. Et même, nous avons, alors encore beaucoup mieux que pour Saint Jean-Baptiste, c'est normal, beaucoup mieux que pour le précurseur, eh bien, nous avons tous les anges, le Gloria, Gloria in excelsis Deo. Oui, c'est sûr, là, Dieu déploie pour manifester la naissance de son fils beaucoup plus de trompettes, si l'on peut dire, hein, que pour la naissance de son précurseur. Et ensuite, circoncision de Saint Jean-Baptiste avec imposition de son nom, avec cet événement, donc un peu inattendu, justement, où tout le monde s'attend eh bien, à ce qu'on le nomme Zacharie, comme son père, c'est ce qui se faisait normalement. Et voici que la mère eh bien, dit non, il faut l'appeler Jean. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'appeler Jean? Bon, sans doute Zacharie avait dû le lui dire, ou du moins le lui écrire sur une ardoise avant, puisqu'il ne pouvait pas parler, de lui faire comprendre, en tout cas. Et alors tout le monde dit, mais non, ça va pas, ça c'est pas la tradition, il faut rester dans la tradition, quand même, il faut l'appeler Zacharie, alors on fait signe au père, il dit, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour Zacharie qui par signe, donc on s'adresse au père par signe pour savoir comment il voulait le nommer, il se fait apporter des tablettes et il écrit Jean et son nom. Ah, bon, mais voilà, c'est très bien, tout le monde s'étonne, mais à l'instant même, voilà, ça y est, ouf. À l'instant même, les lèvres de Zacharie s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Voilà, ça c'est un bel exemple pour nous, un bel enseignement. Ouais. À peine a-t-il retrouvé l'usage de la parole, que fait-il? Il bénit Dieu. Ah, misère. Si nous pouvions faire la même chose, chaque fois que nous ouvrons la bouche, chaque fois que nous agitons notre langue, si c'était vraiment pour bénir le nom de Dieu, ça serait bien cela. C'est pour ça que Dieu nous a donné une langue, hein. C'est pas pour autre chose, hein. Pas pour faire autre chose. Oui. Et oui. Et voici donc tout cela se répand dans le voisinage. Et voici que Zacharie est bien rempli de l'Esprit Saint, prophétise, car c'est une prophétie. Hein, c'est cet hymne, bon, cette fois un hymne sacerdotal, si vous voulez, mais en même temps une prophétie, sans doute la dernière prophétie, si l'on veut, de l'ancienne alliance, en même temps que la première de la nouvelle alliance, eh bien, c'est ce chant du Benedictus. Hein, béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Parce qu'il a visité son peuple et opéré sa rédemption. Bon, très beau, très bel hymne, hein, que vous pourrez lire et méditer. Hein. Voilà. Et donc nous aurons un petit peu le parallèle un peu plus tard dans la vie de notre Seigneur. Hein. Bon, bien sûr, tout le monde s'émerveille de la naissance de notre Seigneur. Au jour de sa circoncision également, on lui impose son nom. C'est le nom de Jean. Et c'est au jour de la présentation, eh bien, que, je dirais, sa naissance est manifestée de façon plus publique au peuple juif, et au moins par la personne du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne. Et c'est là cet autre cantique, oui, de même que Zacharie a chanté le Benedictus, eh bien, nous avons à ce moment-là le vieillard Siméon qui, lui, chante également ce cantique du Nunc Dimittis. Maintenant, Seigneur, laissez aller votre serviteur en paix. Voilà. Vous voyez donc ce parallèle, voyez, tout ce qui se passe là dans la conception, dans la nativité du précurseur est déjà une figure, une certaine annonce de ce que sera la conception et la naissance de notre Seigneur. Mais ça n'est pas fini. Voyez. Et je pense que Saint-Luc n'a pas fait cela, je dirais, au hasard, sans raison. Et que nous dit l'Évangile ensuite au sujet de Saint-Jean-Baptiste? Après donc le chant du Benedictus, ouais. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. Bon, prenons la première partie. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Pueraotem crescebat et confortabatur spiritu. Eh bien, un peu plus loin, au sujet de notre Seigneur, que nous dit le même évangéliste, hein, eh bien, la même chose. « Puer autem crescebat et confortabatur ». Exactement la même formule. Il emploie la même formule exactement pour Saint Jean-Baptiste et pour notre Seigneur. Hein. Et ensuite, petite différence entre les deux. Quelle va être la différence entre les deux après l'événement, bon, de la visitation au temple et du retour à, à Nazareth, etc. La fuite en Égypte, la visite des mages, etc. Vous connaissez tout cela, nous l'avons vu. Et bien précisément, c'est là que leurs existences commencent un petit peu à se différencier. Et, nous dit Saint Luc pour Saint Jean-Baptiste, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. Alors que pour notre Seigneur, que nous dit le même évangéliste, et il leur était soumis. Eterat subditus illis. Vous voyez, là on voit déjà une différence et nous verrons pourquoi cette différence. Pourquoi Saint Jean-Baptiste, lui, se retire au désert alors que notre Seigneur, lui, reste dans sa famille auprès de Notre-Dame et de Saint Joseph. Et l'enfant Jésus grandissait en sagesse et en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors que Saint Jean-Baptiste, lui, donc Saint Jean-Baptiste a 6 mois de plus que notre Seigneur. À quel âge s'est-il retiré au désert? L'Évangile ne nous le dit pas. Tout ce que l'on sait, c'est que donc il demeura dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. Mais bon, les pères de l'Église se sont un petit peu penchés sur la question et pratiquement tous les pères de l'Église s'accordent pour dire qu'il s'est retiré très jeune, dans son enfance. Certains disent dans sa petite enfance, oui, presque au berceau. Bon, c'est peut-être un petit peu difficile, je ne sais pas, on peut le croire bien sûr, mais quand même vivre tout seul au désert pour manger du miel et des sauterelles, il faut quand même déjà savoir se débrouiller un temps, soit peu, quand même, tout petit peu. Oui. Surtout qu'il vivait au désert seul, dans la solitude, semble-t-il, hein, non pas avec d'autres hommes, seul, ermite au désert. Et la plupart des pères, faut dire, la solution la plus vraisemblable semble être quand même qu'il se soit retiré au désert entre l'âge de 7 et 10 ans. Voilà, un enfant de 8, 9 ans, à peu près 10 ans, mettons, qui se retire au désert et qui va y rester combien de temps? 20 ans. 20 ans. Toute sa vie ensuite, enfin du moins, la plus grande partie de sa vie, c'est ces 20 années, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur, eh bien, va se dérouler au désert. Voilà, tout seul au désert, à se laisser préparer par le Saint-Esprit à sa mission, dans le jeûne, la pénitence, ouais, la solitude, le silence, la prière. Hein. Le Saint-Esprit va le préparer à sa mission. Car sa mission n'est pas la même que celle de notre Seigneur. Alors que notre Seigneur, lui, eh bien, il reste en famille. Et c'est déjà très, disons, un petit peu révélateur, c'est en raison de la diversité des missions. Quel sera le rôle de Saint Jean-Baptiste? Eh bien, c'est d'annoncer, d'ouvrir les voies à notre Seigneur, c'est tout. Rien d'autre. Oui. Préparer les voies à notre Seigneur, annoncer Jésus-Christ, préparer les âmes à accueillir notre Seigneur, c'est tout. Oui. Et nous verrons un peu plus loin pourquoi. Il fallait précisément qu'à ce moment-là, ils vivent tout seuls, ils vivent dans la pénitence, une vie austère, une vie mortifiée. Alors que notre Seigneur, lui, sa mission va être d'aller parmi les hommes. Il va falloir qu'il vive parmi les hommes. Pourquoi? Eh bien, pour leur prêcher la vérité. Pour leur apporter la vérité, oui, leur apporter la parole de Dieu. Et donc, il était normal qu'il se préparât à cette mission déjà dans, je dirais, comme les autres hommes, dans sa famille. Il faudra ensuite qu'il vive comme les autres hommes, dans sa famille également. Et donc, toute sa vie sera, je dirais, d'une certaine façon, harmonieuse. Oui, son enfance, son adolescence et puis son âge adulte, eh bien, iront toutes dans le même sens, une vie normale. Notre Seigneur mènera la vie de tous les autres hommes. Et c'est ce qui provoquera d'ailleurs une certaine dispute à un moment entre les pharisiens, les disciples de Jean, les disciples de notre Seigneur. Mais regardez un petit peu, les disciples de Jean, ils font pénitence, ils jeûnent, et puis les vôtres, ils font la belle vie, quoi. Ils mangent, ils boivent comme les... Eh oui, c'est que la mission n'est pas la même, nous verrons pourquoi. Ouais, vous voyez donc, c'est un petit peu ce parallèle que l'on peut faire entre ces deux êtres exceptionnels, bien sûr, notre Seigneur qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, et puis Saint Jean-Baptiste qui est son précurseur. Hein, deux personnages vraiment très, très liés de façon très intime, très intime. Hein. Et ensuite, eh bien, précisément, eh bien, nous allons retrouver Jean dans le désert, et c'est cet évangile-là que l'Église nous fait entendre. Pendant le temps de l'Avent, et notamment dans ce quatrième dimanche de l'Avent, et cette annonce très très solennelle, par laquelle Saint Luc prend toutes les précautions historiques, si l'on peut dire, pour déterminer l'authenticité de l'existence et de la prédication de Saint Jean-Baptiste. L'an 15e de l'Empire de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de Liturée et du pays de Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, sous le souverain pontificat d'Anne et de Caïphe, la voix de Dieu se fit entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Oui, ce luxe un petit peu de précision historique et chronologique pour que l'on puisse situer à peu près, parce que malgré tout, ça a été un petit peu difficile à dater avec beaucoup de précision. Vraiment, on dirait, il veut vraiment donner à cette apparition de Jean et donc à l'apparition du Messie une authenticité historique. Alors les historiens se penchent là-dessus pour demander qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il faut retrouver tous ces tétrarques et le Tibère César. Qu'est-ce que ça veut dire l'an 15e de l'empire de Tibère César? Est-ce que c'est bon tout ça? C'est assez compliqué. Je ne vous casserai pas la tête avec ça. Mais disons, il semble qu'à peu près la date la plus sûre soit l'an 27. L'an 27, à peu près, bien sûr, avec l'imprécision dont nous avons déjà parlé. Et voici donc Jean-Baptiste, Jean plutôt. Pour l'instant, nous l'appelons Jean. Il s'appellera Jean-Baptiste après. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'appellera Jean-Baptiste? C'est facile à deviner, mais parce qu'il va baptiser, tout simplement. Mais pour l'instant, il n'a pas baptisé. Il est tout seul dans le désert, il ne voit personne, il ne voit que des sauterelles, il mange du miel, il mange des sauterelles, il est vêtu d'un vêtement en peau de chameau, etc. Bon, très bien, tout va bien, il vit dans l'amitié de Dieu. Et voici que le Saint-Esprit le pousse à sortir du désert pour aller vers les hommes. Et Jean s'en alla dans le désert de Judée et dans toute la région du Jourdain, prêchant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il prêche, précisément, il prêche la pénitence. Faites pénitence, car le royaume des cieux approche. C'est lui dont le prophète Isaïe avait écrit, c'est ce texte d'Isaïe, « Voici que j'envoie mon ange devant ta face pour te préparer le chemin, etc. » Bon. Or Jean, là, Saint Matthieu, qui nous décrit l'aspect de Saint Jean-Baptiste, de Saint Jean, c'est sûr que ça doit être un peu impressionnant, voir ce grand gaillard, si l'on peut dire, bon, qui aura une belle barbe, etc., enfin, bien, bien solide. Ouais. Jean avait un vêtement en poil de chameau et autour des reins une ceinture de cuir. Des sauterelles, du miel, des bois étaient sa nourriture. Là, donc, il sort de son désert dans ce vêtement, se nourrissant donc de miel et de sauterelles, et il prêche la pénitence, prédication très austère, très rude. Il donne le baptême de pénitence. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem et toutes les contrées voisines du Jourdain venaient à lui, confessant leurs péchés. Et il les baptisait dans le fleuve. Cet aspect très austère, très ascétique de Saint Jean-Baptiste, eh bien, attire les foules. On verra un petit peu pourquoi. Que fait Saint Jean-Baptiste à ce moment-là? Donc, il baptise les foules, il prêche donc sa doctrine. Et nous voyons déjà un petit peu dans la prédication de Saint Jean-Baptiste une annonce de ce que sera également la prédication de Jésus-Christ. Tout d'abord, eh bien, il remarque parmi ceux qui réclament son baptême des pharisiens et des sadducéens. Alors, ça commence pour eux. Et, race de vipères! Il commence à se faire astiquer un petit peu, comme ils se feront un petit peu secouer aussi par notre Seigneur quelques temps plus tard. Race de vipères, qui vous a fait comprendre que vous aviez à fuir devant la colère qui vient. Faites donc de dignes fruits de pénitence. Et ne vous rassurez pas en vous-même en disant, nous avons Abraham pour père. Attention, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être fils d'Abraham. Attention. Eh oui, il ne suffit pas d'être traditionnaliste. C'est bien, hein, mais ça ne suffit pas. Et ne vous rassurez pas en vous-même en disant, nous avons Abraham pour père. Je vous le déclare, de ces pierres même, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, etc. Oui. Donc, d'un côté, prédication un peu, je dirais, difficile, un peu, sévère à l'égard, eh bien, de ceux qui se rassurent, justement. Ouais, nous observons tous les préceptes, tout ça, bon, tout très bien. Mais attention, ça ne suffit pas. Et il prêchait de même aux multitudes qui venaient de toutes parts solliciter son baptême. Et voici que, donc, non seulement il y a des pharisiens qui viennent le voir, mais également il y a des gens simples, des gens bons, des gens qui ont le cœur droit, et qui viennent lui demander, mais que faut-il que nous fassions? Voilà, mais dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Eh bien, il leur répondait que celui qui possède deux tuniques en donne une à celui qui n'en a point. Il leur prêche la miséricorde, la bonté, l'amour du prochain. Déjà, il annonce donc le message du Christ. Et que celui qui est pourvu d'aliments fasse de même. Voilà, qu'il en donne à celui qui n'en a pas. Même des publicains, ah les publicains, ces pauvres publicains, si vous voulez, ils percevaient les impôts et tous ces trucs-là. Et les publicains qui viennent aussi se présenter à lui, lui demander le baptême et l'interroger, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Mais il ne leur dit pas de fermer boutique, hein. Il ne leur dit pas n'exigez plus d'impôts, l'impôt est tout à fait légitime. Bon, dans une certaine limite, je veux bien. Mais l'impôt est tout à fait légitime. Eh bien, que leur dit-il précisément? Que faut-il que nous fassions? N'exigez rien de plus que ce qui vous est prescrit par les ordonnances. Voilà, observez la loi, soyez juste, tout simplement. Prélevez l'impôt, etc. Et tout ce qu'il faut prélever, mais de façon juste. Hein, n'extorquez pas. N'extorquez pas les fonds des pauvres qui viennent vous voir, etc. Et donc, il leur donne le code de la justice. Et des soldats même. Ah, des soldats, des militaires, des légionnaires qui viennent le voir. Hein, ces bons légionnaires. Hein. Et nous, que ferons-nous? Est-ce que Saint-Jean-Baptiste est antimilitariste? Est-ce qu'il leur dit non, non, rendez vos armes et vos équipements et puis allez planter des choux? Non, 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 non. Abstenez-vous de toute violence et de toute fraude et contentez-vous de votre solde. Dieu n'est pas antimilitariste. Non, non, c'est pas vrai. Simplement, il faut faire les choses comme il faut, droitement. Hein. Non pas par esprit de vengeance, de violence, etc., mais se contenter de sa solde. Oui. Et bien sûr, ensuite, bon, ça c'est donc une première partie de la doctrine que donne Saint Jean-Baptiste. Et ensuite, eh bien, il annonce aussi le Messie, bien sûr, il témoigne du Messie qui approche. Oui. Tout le peuple hésitait dans ses pensées au sujet de Jean, et tous se demandaient s'il ne serait pas le Christ. Précisément, oui, devant cette vie assez extraordinaire, cette prédication nouvelle, un peu étonnante, mais est-ce que ça ne serait pas le Messie? Eh bien non. Moi, je vous donne le baptême, je ne vous donne que le baptême d'eau pour la pénitence. Voilà, c'est tout, un baptême d'eau, c'est un baptême par immersion. Bon, il est trempé dans l'eau, simplement, pour purifier le corps, voilà, simplement. Mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales, ni même me prosternant à ses pieds d'en délier la courroie. Celui-là, c'est dans l'Esprit Saint et dans le feu qu'il vous baptisera. Vous voyez, il annonce donc le Messie, qui les baptisera cette fois non plus dans l'eau, mais dans l'Esprit Saint et dans le feu. C'est par ses discours et par d'autres beaucoup semblables et beaucoup d'autres semblables qu'il exhortait le peuple et lui annonçait la bonne nouvelle. Voilà donc ce qu'était la vie de Saint Jean-Baptiste, hein, avant l'arrivée de notre Seigneur. Et ensuite, bien sûr, bon, dans le reste des évangiles, nous aurons d'autres témoignages qu'il rendra à Jésus-Christ avant son emprisonnement. Vous savez qu'il sera emprisonné, justement, par Hérode. Et c'est à la suite de ses reproches, eh bien, et c'est ensuite au cours d'un, donc plutôt au cours d'une fête, eh bien, que la... comme elle s'appelait déjà là, Hérodiade, hein, demandera sa tête, hein, pour prix d'une danse, parce qu'elle dansait bien, ça avait plu, alors que veux-tu en récompense? Eh bien, donnez-moi la tête de Jean-Baptiste. Et oui, sa tête fut le prix d'une danse, martyr de Saint Jean-Baptiste. Oui. Alors voyez, nous pouvons peut-être justement nous poser quelques questions. Oui. Pourquoi Saint Jean-Baptiste a-t-il mené cette vie austère, cette vie retirée dans le désert, alors que notre Seigneur lui a mené une vie banale, si l'on peut dire simple, oui. Inconnue des hommes, à tel point même que certains seront un petit peu scandalisés, quoi, de le voir sortir comme ça de Nazareth, il n'a pas reçu d'instruction, il se met à prêcher et on se scandalise. Hein. Connaissez cela? On dit, ben enfin, qu'est-ce que c'est celui-là? Le fils du charpentier, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors que Saint Jean-Baptiste, oui, Saint Jean-Baptiste, eh bien, également, n'a pas reçu de maître, il n'a pas eu de maître, il n'a pas été formé, il n'a pas été à l'école, personne ne lui a rien appris, il parle et pourtant tout le monde vient à lui. Curieux, oui. Personne ne fuit devant Saint Jean-Baptiste, personne n'est étonné que Saint Jean-Baptiste prêche, alors qu'il n'a pas non plus reçu d'enseignement, pas plus que notre Seigneur. Oui. Mais notre Seigneur, on le connaît, il est un des nôtres, il vit comme nous, alors que Saint Jean-Baptiste, il vit d'une façon un peu extraordinaire, un peu étonnante. Oui. Et quelques réflexions sur ce sujet-là d'un auteur, le père Dehaut, dominicain, qui sont bien, bien éclairantes. Je vais vous montrer les deux visages, mettre un peu en lumière, si vous voulez, les deux caractéristiques de Saint Jean-Baptiste et de notre Seigneur. Le Christ prêche la perfection, et même, nous dit Saint Thomas d'Aquin, une perfection très supérieure à celle que prêche Jean-Baptiste. C'est sûr que la prédication de Jean-Baptiste est déjà bien, mais notre Seigneur va quand même aller beaucoup plus loin que cela, c'est clair. Or, Or, vous voyez, donc, notre Seigneur prêche une perfection plus haute, supérieure à celle que prêche Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste mène, aux yeux des hommes, une vie très austère pour provoquer les hommes, par son exemple, à la pratique d'une vie parfaite. Il mène une vie, semble-t-il, plus parfaite, plus austère que celle que mène Jésus-Christ, pour les provoquer, par son exemple, pour les provoquer à la pratique d'une vie parfaite. Saint Thomas d'Aquin rappelle le texte de Saint Matthieu, raccourci saisissant de la vie de Jean-Baptiste, poil de chameau et peau de bête, sauterelle et miel sauvage. C'est sûr que ça étonne les hommes. Imaginez là que dans le ballet, tout d'un coup, vous voyez arriver un grand barbu, si on peut dire comme ça, vêtu de cet accoutrement et qui ne se nourrit que de, je sais pas quoi, moi, tout ce que vous pouvez trouver ici dans la nature. Ouais. Bon, ce serait un petit peu surprenant, hein, un petit peu surprenant. Et Saint Jean Chrysostome nous invite à admirer la patience héroïque de Jean-Baptiste. Et cette patience héroïque, parce que quand même, il dirait ne rien manger d'autre que cela, et ne pas vivre autrement que vêtu de poils de chameau, etc. Bon, il faut quand même une bonne dose de patience, savoir souffrir, savoir supporter ses privations, etc. C'est vraiment héroïque. Oui. Donc Saint Jean Chrysostome nous invite à admirer la patience héroïque de Jean-Baptiste et l'étonnement des Juifs, et également l'attraction exercée sur eux. Ça attire les foules, oui. Et l'Évangile nous dit même que tout Jérusalem cédait à cette attraction. Hein, tout Jérusalem courait vers lui. Tout Jérusalem. Allez voir cet homme étrange qui prêchait la pénitence. Oui. Et il est curieux, justement, continue notre auteur, il est curieux de la comparer à la répulsion exercée sur les gens de Nazareth par le contraste entre la vie trop simple de Jésus et la prédication dont il assumait tout à coup la fonction. Et quand notre Seigneur se met à parler, une sorte de répulsion. On ne veut pas l'écouter, on ne veut pas le croire. Ouais. Il n'est pas crédible, si l'on peut dire. Alors que Jean-Baptiste, lui, il est crédible. Un prédicateur comme Jean-Baptiste a la bonne heure. Mais que dire de ce Jésus qui n'a jamais rien appris si ce n'est assis et des planches et n'a jamais rien fait d'autre? Tout Nazareth est rebuté par la vie trop commune de Jésus. Tout Jérusalem est attiré par la vie extraordinaire de Jean-Baptiste et trouve tout naturel qu'il prêche bien alors qu'il n'a pas eu plus de maître que Jésus. On trouve tout naturel qu'il prêche bien alors qu'il n'a pas eu plus de maître que Jésus. Ce ne sont pourtant ni les poils de chameau ou les peaux de bête, ni les sauterelles ou le miel sauvage qui puissent dispenser d'avoir eu un maître, mais l'humanité sera toujours ainsi. Et les hommes seront toujours ainsi. Elle posera toujours certaines questions. Montrez-moi vos diplômes. De quel droit vous parlez? Toujours. À moins que, ébaubie par la merveille d'habits étranges et de menus tout à fait imprévus, elle laisse emporter par le tourbillon de son admiration les questions indiscrètes, qu'en d'autres cas, elle n'oublie jamais de poser et n'épargne à personne. Et pour être écouté des foules, il faudrait qu'on s'habille tous comme Jean-Baptiste. Alors là, tout le monde vous écouterait. C'est vrai. Hein. Et oui, etc. Pour nous, plus encore que la patience de Jean-Baptiste, admirons, ou plutôt adorons, l'obéissance de Jésus à la grande loi essentielle du Fils de l'homme qui le voulait si perdu dans la vie commune qu'il en devint indiscernable et nécessairement méconnu. Oui, notre Seigneur qui n'a pas voulu justement apparaître trop différent des autres. Oui. Jean-Baptiste n'a pas besoin d'aller aux foules, il les attire à lui. Et comment expliquer justement, et c'est là la réponse qui est très belle, hein. Comment expliquer que la victoire de Jean-Baptiste soit immédiate et celle de Jésus si tardive? Car l'heure de Jésus viendra quand même, attention, hein. Il y a un jour aussi où les foules viendront à Jésus. Eh bien, le mot de l'énigme est celui du labarum. Inoc signo vinces. C'est le signe de la croix. C'est le mystère de la croix qui commence à opérer et qui éclate et brille en Jean-Baptiste et dans son jeûne héroïque. Eh, c'est beau ça. De fait, en vertu d'une économie mystérieuse dont nous plaidera, ce n'est pas en Jésus mais en Jean-Baptiste que doivent paraître et flotter d'abord aux yeux de tous les étendards du grand roi. La vie de Jean-Baptiste est ostensiblement crucifiée. tandis que Jésus ne se montrera pleinement comme un crucifié que dans sa passion et sa mort, et alors il attirera tout à lui. Ouais. Pour l'instant, c'est le précurseur qui attire les foules à lui, par son jeûne, par sa pénitence. Ouais. Mais il les attire à lui, pourquoi? Pour le conduire à Jésus. Et un jour, bien, viendra l'heure de Jésus, ou mise en croix, alors il attirera tout à lui. Omnia tram ad meipsum. J'attirerai, lorsque je serai élevé de terre, alors j'attirerai tout à moi. Et qu'est-ce qui attire les foules? Eh bien, c'est le mystère de la croix, qui transparaît déjà dans la vie de Saint Jean-Baptiste, qui transparaît déjà dans sa prédication. C'est le mystère de la croix qui attire les foules vers Jean-Baptiste. Ouais. Et c'est ensuite, eh bien, c'est la croix qui attirera les foules vers notre Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste est élevé au-dessus de la terre, exalté par tout son genre de vie, et c'est pourquoi il exalte les foules et les attire à lui. Mais il convenait, pour toutes les raisons que nous avons dites, que les premières démarches visibles, les premiers gestes du Fils de l'homme, ne sont rien d'exaltant pour l'imagination des foules. Au départ, notre Seigneur, rien d'exaltant sur l'imagination des foules. Non, non. Un jeûne très court au désert, connu de personne. Personne ne le saura qu'il est au désert et qu'il jeûne. Personne ne le verra, que le démon, c'est tout. Tandis que le long jeûne de Jean-Baptiste était connu de tous. Et Jésus était trop l'un de nous. Il était trop au milieu de nous, ouais, etc. Jésus est méconnu, ou plutôt il n'est pas assez reconnu, on ne fait pas attention à lui. On ne le reconnaîtra que lorsqu'il portera les signes éclatants de la souffrance, au milieu de la foule rassemblée autour de lui pour insulter et blasphémer son supplice. Et à tous ces points de vue, achève l'auteur, il faut contempler ce contraste continuel entre ce qui se passe pour le précurseur et ce qui se passe pour son maître. Il y a toujours cette affinité, bon, contrastée quand même, depuis le début, hein, depuis la conception et jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Hein, une sorte de similitude un peu contrastée quand même. Hein. Donc contraste continuel, contraste dans le début, contraste jusqu'au bout, contraste entre les deux martyrs. La croix où meurt Jésus, dressé aux portes de la ville, entre ciel et terre, aux yeux de tous. Le corps intact de l'agneau, dont aucun os n'est brisé, et que ne touchera plus que la tendresse de pieuses mains. Et d'un autre côté, la mort par le glaive, au fond d'une obscure prison, la tête seule ramenée à la lumière, promenée par des mains impudiques, dans l'éblouissement d'une orgie. Mais contraste également, oui, dans ces deux morts. Oui. Donc au début, c'est Jean-Baptiste qui est en lumière, si on peut dire, oui, qui attire les foules par sa pénitence, alors que notre Seigneur est méconnu, incompris. Et à la fin, c'est l'inverse. Eh bien, oui, Jean-Baptiste disparaît et meurt au fond d'une prison obscure, alors que notre Seigneur meurt, si on peut dire, dans la lumière du calvaire, hein, la gloire, le triomphe de la croix. Vous voyez ce grand personnage qui est Saint Jean-Baptiste, hein. Je pense qu'il n'était pas inutile d'en parler un petit peu, hein, puisque c'est lui qui va donner son baptême à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis comme celui quand même que l'Église propose à notre méditation pendant ce temps de l'Avent, je pense qu'il n'est pas mauvais de méditer un peu sur ce personnage, l'exemple qu'il nous donne pour bien nous préparer à la fête de Noël. Et saint Thomas d'Aquin peut dire, oui, de saint Jean-Baptiste, qu'il fut le terme de la loi et le commencement de l'évangile. Vous voyez, saint Jean-Baptiste est le personnage qui fait vraiment le lien, la jonction entre les deux. Il est le terme de la loi, il appartient à l'Ancien Testament, bon, il est fils de prêtre d'Aaron, il est donc de race sacerdotale, il n'exercera pas le sacerdoce lui-même, hein, pour s'effacer, eh bien, devant le souverain prêtre, notre Seigneur qui l'annonce. Et il est également le commencement de l'Évangile. Il est le premier saint, si vous voulez, qui apparaît après Notre-Dame dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, ouais, Saint Jean-Baptiste. Ouais. Qui donnait donc son baptême au bord du Jourdain, donnait un baptême de pénitence, pour la rémission des péchés, et ce baptême, nous avions, je crois, plus ou moins évoqué la chose il y a un an ou deux, je ne sais plus très bien, qui n'est pas un sacrement, attention, hein, ce baptême que donnait Saint Jean-Baptiste n'est pas un sacrement, il baptise dans l'eau. Et il dira bien, ce baptême sera bien appelé le baptême de Jean, Il n'a pas de vertu, ce baptême n'a pas de vertu divine. Ce n'est pas un sacrement. Il baptise dans l'eau. C'est donc un certain sacramental, si vous voulez, bon, qui peut être porteur donc, de grâce actuelle. Dieu peut se servir, bien sûr, de ce rite du baptême de Jean pour purifier les âmes, mais ce n'est pas un sacrement. Il ne confère pas la grâce et il n'impose pas non plus de caractère. Oui, donc ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, eh bien, ne recevaient pas la grâce, si vous voulez, et ne recevaient pas le caractère baptismal. Ils étaient éventuellement purifiés de leurs péchés si le rite baptismal, le rite de la pénitence, eh bien, convertissait leur cœur. Oui. Alors si effectivement, en se soumettant à cette pénitence, si en se soumettant à ce baptême, eh bien, ils convertissaient leur cœur, ils faisaient de dignes fruits de pénitence, comme leur demandait Jean-Baptiste, à ce moment-là, sans doute, leur péché leur était remis. Mais ça n'était pas directement par le baptême. Le baptême ne remettait pas directement les péchés, mais ce qui pouvait obtenir la rémission des péchés, c'était la conversion de l'âme provoquée par cette pénitence, par ce rite, cette soumission à ce rite. Ouais. Et ce baptême était donné à beaucoup d'hommes. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin se pose la question, est-ce que il n'aurait pas été plus convenable, par exemple, que ce baptême ne soit donné qu'à notre Seigneur Jésus-Christ? Puisque finalement, tout cela était ordonné à Jésus-Christ. Tout ce que faisait saint Jean-Baptiste était destiné à préparer les voies à Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux qu'il réservât son baptême pour notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien non, dit saint Thomas d'Aquin, car s'il l'avait donné uniquement à Jésus-Christ, on aurait pu croire que le baptême de Jean était supérieur au baptême du Christ. Hein? Puisque Jésus-Christ venait demander quelque chose d'unique et de tout à fait spécial, qu'il aurait été le seul à recevoir de la part de Jean-Baptiste. Oui. Donc on aurait pu dire, mais alors ce baptême que le Christ a reçu est quelque chose d'unique, de supérieur à ce que le Christ lui-même va donner, comme s'il en avait besoin. Oui. Non, non. Donc ce baptême est bien donné à tous, et Jésus-Christ va le demander. Un petit peu comme n'importe qui, comme tout le monde le donnait. Ce baptême n'était pas donné aux enfants, bien sûr, hein, puisqu'il était donné pour la pénitence. Or, les enfants, ne peuvent pas, vous voyez, ça, opérer d'eux-mêmes cette conversion du cœur et faire pénitence comme les adultes. Donc, il n'était donné qu'à des êtres qui avaient l'âge, qu'à des hommes qui avaient l'âge de raison. Et ce baptême va continuer à être donné ensuite, même après le baptême du Christ. Vous voyez, il ne va pas s'arrêter après le baptême du Christ. Saint Thomas d'Aquin donne des raisons qui sont intéressantes. C'est un fin psychologue. Il n'est pas le premier, enfin, par exemple, Saint Jean Chrysostome. Mais pourquoi est-ce que... Oui, puisque une fois que le Christ était baptisé, pourquoi pas, après tout, Jean-Baptiste aurait très bien pu s'arrêter de donner le baptême. Bon, voilà, c'était fini, sa mission était remplie. Bon, qu'il continue éventuellement à prêcher, à désigner notre Seigneur, mais pourquoi continuer à baptiser? Eh bien, plusieurs raisons. Selon saint Jean Chrysostome, si Jean avait cessé de baptiser après avoir administré le baptême du Christ au Christ, on aurait cru que c'était par jalousie ou par colère. Ouais, s'il avait arrêté d'administrer son baptême, une fois que le Christ lui-même commençait son ministère, on aurait pu croire que c'était dans un esprit, vous voyez, de jalousie, de colère. Vous voyez, c'est comme on s'efface un peu devant un concurrent plus fort que vous. Vous voyez, bien, voilà. Donc les deux baptêmes vont être administrés concurremment pendant quelques temps. Bien sûr, au bout d'un petit moment, Jean va arrêter de donner le baptême tout simplement parce qu'il va être mis en prison. Donc là, c'est clair, le baptême de Jean va cesser. Mais tant qu'il peut le donner, il le donne. Et il le donne pour conduire toujours, pour indiquer et pour conduire les foules à Jésus-Christ. S'il avait deuxième raison, s'il avait cessé de baptiser au moment où le Christ commençait à donner son baptême, Jean aurait jeté ses disciples dans une plus grande jalousie. Et non seulement on aurait pu l'accuser, lui, d'être jaloux, mais les disciples aussi auraient pu se chamailler entre eux. Allez, bon, voilà. En troisième raison, bien précisément, celle que nous disions, en continuant à baptiser, il envoyait ses auditeurs au Christ, ouais, donc il les conduisait à notre Seigneur. Et enfin, quatrième raison, l'ombre de la loi demeurait encore et le précurseur ne devait pas cesser son ministère jusqu'à ce que la vérité fût manifestée. Et encore une question, peut-être que l'on peut se poser sur ce baptême de Jean, avant de parler rapidement du baptême du Christ. Est-ce que Jean-Baptiste lui-même a reçu le baptême du Christ? Oui. Est-ce que Jean-Baptiste qui a baptisé le Christ, est-ce que Jean-Baptiste lui-même a été baptisé par le Christ? Eh bien, il semble que oui. Il semble que oui. Mais nous n'avons pas de signe. Ce n'est pas dans les évangiles, mais les pères de l'Église, hein, plusieurs pères de l'Église le pensent. Oui. Car, Jean-Baptiste ou les disciples de Jean-Baptiste, ou même les disciples de notre Seigneur, oui, bien, s'ils n'ont reçu que le baptême de Jean-Baptiste, ils n'ont pas reçu la grâce, ils n'ont pas reçu le caractère baptismal, oui, alors est-ce qu'il ne convenait pas, peut-être, justement, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, eh bien, inaugura son ministère, peut-être en conférant son baptême, alors, à son précurseur et à ses disciples, pour leur donner la grâce et le caractère baptismal. C'est Jésus-Christ qui donne la grâce, et lui seul, eh bien, est-ce qu'il n'était pas légitime, normal, eh bien, qu'il commença par la donner à son précurseur et à son disciple, oui. C'est Saint Jean Chrysostome qui le pense, oui. Selon Saint Jean Chrysostome, lorsqu'à Jean, qui lui dit, hein, c'est la première réaction de Jean, lorsqu'il voit arriver Jésus-Christ, Jésus, quittant la ville de Nazareth en Galilée, vint au Jourdain vers Jean pour recevoir son baptême. Jean s'y refusait en disant, « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous, et c'est vous qui venez à moi. » Que lui répond notre Seigneur, « Laisse faire pour le moment, car c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute la justice. Laisse faire pour le moment, oui, dit notre Seigneur. » Alors, Saint Jean Chrysostome se dit, « Ben voilà, pour le moment, c'est toi qui me baptises. » Mais peut-être y aura-t-il un autre moment où cette fois, c'est lui qui baptisera Jean-Baptiste. Oui. Le Christ répond, « Laisse maintenant. » Et nous suggère donc que dans la suite, le Christ baptisa Jean. Et continue saint Thomas d'Aquin, « Il est certain, d'après Saint Jérôme, donc un autre père de l'Église, oui, donc c'est une opinion tout à fait probable, que si le Christ a été baptisé dans l'eau par Jean, Jean devait pareillement être baptisé dans l'Esprit par le Christ. Oui, voilà. Notre Seigneur se fait baptiser dans l'eau par le précurseur, Jean-Baptiste. Eh bien, il était tout à fait convenable qu'ensuite, eh bien, il baptisa Jean dans l'Esprit. Hein. » Et voici donc cet événement, quand même, il faut y arriver, cet événement qui est la sortie donc de l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le baptême de Jésus-Christ. Et ça doit être un moment, c'est assez extraordinaire, que cette arrivée de notre Seigneur devant Jean-Baptiste, là, au bord du Jourdain. Voilà, Jean-Baptiste, donc, qui est... Les foules viennent à lui, des pharisiens, tout ce qu'on peut imaginer, tout Jérusalem court vers lui. Jean-Baptiste, semble-t-il, n'a jamais vu Jésus-Christ. Il ne le connaît pas. Ils ne se sont jamais vus, sinon lorsqu'ils étaient chacun dans le sein de leur maman. Bon, quand même pas une connaissance extraordinaire, au moins sensible, visible, oui. Sans doute se connaissait-il en Dieu, ça c'est possible. Mais enfin, voilà, c'est tout. Donc Jean-Baptiste n'a jamais vu Jésus-Christ. Et voici donc que Jésus-Christ s'approche de lui, lui demande, il vient recevoir son baptême, peut-être comme les autres, là, peut-être fait-il la... Bon, je ne sais pas, il fait la queue, je ne sais pas comment ça se passait très bien, mais il était là au milieu des foules, puis il attendait le moment d'être baptisé. Oui, sans doute, beaucoup de... très discret. Et voici que Jean, bien, non. Oui, une sorte de lumière intérieure, hein, qui lui révèle, eh bien, que celui qui est là, eh bien, c'est lui, c'est le Messie. C'est celui qu'il est chargé d'annoncer, de montrer aux foules. Alors, il est sûr qu'il n'y a plus qu'une envie à ce moment-là, bien, c'est disparaître. Voilà, puisque le Messie est là, moi, c'est fini, je dois disparaître. Oui. Ce n'est pas à moi le baptiser, pensez donc. Il sait très bien qui est le Messie, hein. Ce n'est pas à moi de baptiser. Comment puis-je baptiser le Messie? Invraisemblable. Non, c'est vous qui devez me baptiser. Hein. Eh bien non. Et notre Seigneur, eh bien, veut précisément se soumettre à ce rite du baptême. Pourquoi? Eh bien des raisons, nous disent aussi les pères de l'Église. Chaque père de l'Église... Oui, l'autre fois, j'avais l'air peut-être de vous... La dernière fois, j'espère que je ne vous ai pas troublé, mais je vous ai dit, je crois que les pères de l'Église n'étaient pas tous d'accord. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein. C'est sur des questions, sur des commentaires, hein, sur de l'interprétation de tel ou tel passage de l'Écriture. Ce n'est pas toujours évident. Et que veut dire telle phrase? Que veut dire tel événement? Eh bien, les pères de l'Église ont parfois, là, j'irais, des opinions un petit peu différentes. Un tel pense que ça veut dire plutôt ceci, plutôt cela. Mais bon, ça c'est tout à fait légitime quand c'est des... dans des commentaires, pour essayer de comprendre un petit peu l'Écriture sainte, pas toujours simple. Hein. Et l'Église, le magistère de l'Église, accorde une certaine infaillibilité aux pères de l'Église lorsqu'ils sont tous d'accord. Et lorsque tous les pères de l'Église sont unanimes à dire tel événement, tel passage, si, a telle signification, alors là, c'est sûr, c'est clair, là, c'est, ils ne peuvent pas tous se tromper. Mais dans bien des cas, ben, ma foi, sans qu'il y ait des contradictions, il y a parfois simplement des différences. Oui, bon, un tel comprend comme ceci, un tel comprend comme cela. Vous voyez, par exemple, ici, dans ce cas du baptême de notre Seigneur, pourquoi Jésus-Christ vient-il recevoir le baptême? Eh bien, vous avez plusieurs opinions, oui, qui peuvent très bien se compléter. Oui, bon, c'est... Saint Ambroise, par exemple, pourquoi nous dit-il cela? Le Seigneur s'est fait baptiser, non pas dans l'intention d'être purifié, bien sûr, comment voulez-vous qu'il soit purifié? Il est saint, il est Dieu, hein, mais pour purifier les eaux. Voilà, il vient purifier les eaux. Bon, symboliquement, toutes les eaux dans l'eau du Jourdain. Touchées par la chair du Christ, qui n'avait pas connu le péché, elles eurent ainsi la vertu de baptiser, hein, pour sanctifier l'eau. Voyez, il lui donnait donc la vertu de baptiser. Ou bien, comme le dit Saint Jean Chrysostome, il les laissa sanctifier pour ceux qui devaient ensuite être baptisés. Donc il vient sanctifier les eaux pour ceux qui viendraient ensuite être baptisés. Voilà, première raison. Deuxième raison, c'est Saint Jean Chrysostome. Donc, autre raison. Bien qu'il ne fût pas pécheur, le Christ est sans péché, hein, le Christ, malgré tout, a voulu prendre une nature pécheresse. Il a pris notre nature, qui est une nature pécheresse, alors qu'il n'est pas pécheur lui-même. Il a pris une chair semblable à la chair du péché. Aussi, quoiqu'il n'eût pas besoin de baptême pour lui-même, la nature charnelle chez les autres lui en faisait une nécessité. Oui, donc c'était en raison de la nature pécheresse qu'il avait voulu assumer, qu'il avait voulu prendre. Oui, voilà. Et Saint Grégoire de Nazianze, un autre père de l'Église, ajoute, lui, que le Christ a été baptisé afin de submerger dans l'eau le vieil Adam tout entier. Oui, cette nature humaine qu'il a pris sur lui avec son péché, il a voulu la submerger tout entière dans l'eau par ce baptême. Et enfin, troisième raison que nous donne cette fois, c'est Saint Augustin. Saint Augustin, eh bien, tout simplement, notre Seigneur a voulu accomplir ce qu'il a commandé de faire. Il vient commander le baptême, et donc, eh bien, il commence par le faire lui-même. Puisqu'il dira, avant de quitter la terre, hein, vous le savez, hein, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Voilà, donc il faut être baptisé pour être sauvé. Et donc, eh bien, il reçoit lui, il donne l'exemple, il montre ce qu'il faut faire, en l'accomplissant lui-même. Il ne suffit pas de commander, de dire faites ceci, faites cela, il faut commencer par le faire soi-même. Vous voyez, c'est trois raisons de ce baptême de notre Seigneur. Et alors, comment, si vous voulez, les circonstances, est-ce que ces circonstances ont été bien choisies? Et Saint Thomas d'Aquin essaie de répondre un petit peu à tout. Est-ce que, par exemple, est-ce que vraiment il était nécessaire d'attendre 30 ans? Puisqu'il semble, d'après l'évangéliste, que notre Seigneur avait autour, aux alentours, aux environs de 30 ans, lorsqu'il est venu demander le baptême de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il n'aurait pas pu justement être baptisé plus petit, ou je ne sais pas quoi, bon, comme ça se fait maintenant dans l'Église, on baptise les enfants, etc. Alors est-ce qu'il n'était pas plus convenable qu'il soit baptisé lui aussi dans l'enfance? Eh bien, plusieurs raisons. Pourquoi 30 ans? Alors ça, bien sûr, hein, ça s'explique en partie, pas uniquement, mais en partie pour des raisons qui tiennent à l'époque, hein, au milieu social dans lequel vivait Jésus-Christ. 30 ans, par exemple, c'était l'âge des fonctions lévitiques. Dans l'ancienne loi, pour exercer les fonctions lévitiques, il fallait attendre d'avoir 30 ans. On ne pouvait pas, oui, c'était une sorte de la maturité ou la majorité, pardon, oui, pour les fonctions lévitiques. Avant 30 ans, on ne pouvait pas. À 30 ans, on pouvait. Oui, c'était l'âge, effectivement, hein, c'est l'âge où on commence à avoir quelques lumières, un petit peu. Avant, bon, c'est un petit peu encore hésitant. Quoi. Et oui, 30 ans, c'est l'âge parfait. L'âge parfait, alors, bon, voilà. Saint Thomas d'Aquin, les pères de l'Église, Saint Thomas d'Aquin pensent d'ailleurs que c'est pourquoi, à la résurrection, sans doute, eh bien, nous aurons à peu près notre nature à vers la trentaine. L'âge parfait, où on est bien, bien bâti, tout est bien en place, et c'est parfait, il n'y a pas encore de décrépitude, etc. Oui, bon, c'est l'âge parfait, 30 ans. C'est l'âge requis, nous dit Saint Thomas d'Aquin, c'est l'âge requis 30 ans pour enseigner et pour prêcher. C'est l'âge parfait. Et effectivement, dans l'Écriture, on voit comme ça certains hommes, grands hommes, eh bien, qui ont exercé de grandes activités à l'âge de 30 ans. L'âge parfait est l'âge de 30 ans. Joseph, par exemple, était âgé de 30 ans quand il prit le gouvernement de l'Égypte. Joseph, vendu par ses frères. David également avait 30 ans lorsqu'il commença de régner. Le roi, le prophète David, 30 ans. Oui. Ézéchiel également, prophète Ézéchiel, était dans sa 30e année lorsqu'il se mit à prophétiser. Oui, donc 30 ans, c'était vraiment un âge qui, pour les Juifs, et je pense que ce n'était pas tout à fait absurde, hein, ça pourrait l'être encore pour nous aujourd'hui, sans doute, c'est l'âge mais vraiment de la maturité. Donc, voilà, il était convenable, puisque ce baptême de notre Seigneur marquait le début de son ministère, le début de sa manifestation, de sa prédication, eh bien, il était normal eh bien, qu'il attende d'avoir 30 ans. Deuxième raison, toutes ces raisons sont belles, hein, c'est Saint Jean Chrysostome. Ouais. Après le baptême du Christ, la loi allait prendre fin. Lex cessare inciperet. C'est intéressant ça pour ceux qui nous disent que l'ancienne alliance n'a pas été révoquée. Il y en a qui disent cela. Donc après le baptême du Christ, la loi allait prendre fin, c'est fini. L'ancienne alliance est révoquée, etc. Bon, c'est tout cela va disparaître et remplacé par l'Église. Bon, la loi nouvelle, la loi de la grâce, la loi de l'Esprit Saint. Aussi, le Christ est-il venu au baptême à l'âge qui peut porter tous les péchés. L'âge qui peut porter tous les péchés. Il a attendu, oui, d'avoir l'âge qui peut porter tous les péchés. Étant donné qu'il avait ainsi observé la loi, et il a observé la loi parfaitement jusqu'à l'âge de 30 ans, nul ne pourrait dire qu'il l'abrogeait parce qu'il n'avait pas pu l'accomplir. C'est très, très, très psychologue tout ça. Il va abroger la loi par sa prédication, son baptême, ensuite sa mort sur la croix. Oui, s'il l'avait abrogé vers l'âge de 7-8 ans, c'est bien. Hein. Ah ben, il a pas tellement porté le poids de la loi, etc. Oui, alors bon, ça va bien. Alors que là, il a porté la loi. Il a accompli la loi, nous l'avons vu au temple à 12 ans, etc. Il observe tous les préceptes de la loi, donc il sait ce qu'est la loi, il l'a portée, il l'a vécue, et maintenant, donc il peut l'abroger. Donc on ne pourra pas l'accuser de l'avoir abrogé parce qu'il ne pouvait pas l'accomplir. Il l'a parfaitement accompli. Oui. Et c'est d'ailleurs le sens, un petit peu, sans doute, ce qu'il veut laisser entendre à Saint Jean-Baptiste quand il lui dit « Il faut accomplir toute la justice. Oui, il faut accomplir toute la loi. Voilà, on se soumet à toute la loi. » Voilà. Et enfin, troisième raison, là on trouve une explication de Saint Augustin qui est belle, mais Saint Augustin a bien joué, enfin joué si on peut dire, avec les chiffres. Il y a des tas d'explications sur les chiffres, c'est très beau. C'est pendant une parabole, là, il y a un homme âgé de 38 ans. Ouais, 38 ans, qu'est-ce que c'est? C'est 40 moins 2. Et oui, c'est 40 moins 2. Donc 40, c'est la perfection, c'est la loi et les prophètes. Moins 2, c'est les deux préceptes de l'amour. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Oui, il n'avait pas encore accompli tous les préceptes. Il n'accomplissait pas les deux préceptes. Donc il n'avait que 38 ans. Signification du chiffre. Oui, donc il était, je ne sais plus très bien, il était malade. En tout cas, ça n'allait pas très bien. Voilà. Bon. Donc autre explication. Par cela même que le Christ est baptisé à l'âge parfait, on laisse entendre que le baptême engendre des hommes parfaits. Voilà. Il est baptisé à l'âge parfait, eh bien, pour manifester et faire comprendre, et précisément, que le baptême engendre des hommes parfaits. Le baptême fait de nous des hommes parfaits. Et voici cette petite explication des nombres, là. Le nombre 30 est le produit de 10 par 3. C'est clair, ça va bien jusque-là. Le nombre 3... c'est le symbole de foi en la Sainte Trinité. Et le nombre 10 signifie l'accomplissement des préceptes de la loi. Voilà. La Sainte Trinité et les 10 préceptes de la loi, ça fait 30. Voilà, c'est la perfection. Vous avez tout. Or, n'est-ce point en cette foi et en cette pratique que consiste la perfection de la vie chrétienne? Ouais. Baptême dans le Jourdain en plus, bon, vous voyez, à l'âge de 30 ans, non seulement à l'âge de 30 ans, mais également baptême dans le Jourdain. Pourquoi dans le Jourdain? Eh bien, rappelez-vous, vous connaissez comme l'histoire sainte, je pense, l'Ancien Testament. Eh bien, le Jourdain, c'est par là que les Hébreux sont rentrés en terre promise. Vous voyez, c'est le fleuve qu'il a fallu traverser pour rentrer en terre promise. Vous voyez le symbolisme? Vous voyez, c'est de ce fleuve que l'on sort, vous voyez, pour rentrer en terre promise. Eh bien, notre Seigneur sort du Jourdain baptisé pour nous montrer justement que ce baptême nous engendre à la vie stellaire, nous fait pénétrer dans la terre promise, voyez, tout simplement le Jourdain. C'est simple, vous voyez, tout cela. Il suffit de réfléchir deux petites minutes. Voyez. Peut-être un peu plus, mais enfin, voilà. Heureusement, saint Thomas d'Aquin nous y aide. Voyez, c'est clair, et les pères de l'Église, c'est sûr que ce n'est pas toujours très très simple. Voyez. Et puis ensuite, alors, bon, c'est un petit peu long tout cela, mais enfin, rapidement, quand même, toutes ces manifestations qui accompagne le baptême de Jésus-Christ. Vous connaissez cela aussi. Jésus étant baptisé, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit du fleuve. Et tandis que la foule se faisait baptiser et que Jésus priait, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit Saint descendit visiblement sous la forme d'une colombe et se reposa sur lui. Et en même temps, une voix du ciel fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toutes mes complaisances. » Voilà, manifestation extraordinaire hein, de la Sainte Trinité, aussitôt après le baptême de Jésus, oui, l'ouverture des cieux d'abord. Oui, les cieux s'ouvrent, soudain les cieux s'ouvrirent. Pourquoi cette ouverture des cieux? Mais c'est une manifestation, c'est aussi ça, pour illustrer un petit peu les réalités qu'opère le baptême. Oui. Saint Thomas d'Aquin donne trois raisons, voyez, à cette ouverture des cieux, pour montrer d'abord que l'Esprit vient du ciel. Voyez, cette vertu du baptême, eh bien, ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas des hommes comme le baptême de Jean, qui n'avait pas de vertu céleste en lui-même. Alors que le baptême de Jésus-Christ, lui, aura une vertu céleste. Bien sûr, il vient des cieux, donc le ciel s'ouvre pour cela. D'autre part, le baptême agit, donne et agit en fonction également de la foi de l'Église et de la foi de l'enfant, de la foi de ceux qui demandent le baptême. Le baptême est le sacrement de la foi. Or, la foi nous découvre quoi? Eh bien, les réalités célestes. Et la foi nous ouvre le ciel. Oui. Donc, ouverture du ciel. Et puis ensuite, ouverture du royaume céleste. Le baptême du Christ nous ouvre le chemin du ciel, nous ouvre le royaume céleste. Voilà tout ce que manifeste, si vous voulez, l'ouverture des cieux. Après le baptême du Christ, il y a également cette prière du Christ. Ouais, c'est curieux, c'est notre Seigneur qui prie. Il vient d'être baptisé, et sur la rive, que fait-il? Il prie. Nous avons évoqué, je crois, la chose déjà l'année dernière. Hein, notre Seigneur, sans doute, hein, dans ce moment de ce baptême, eh bien, prie, considère un peu, justement, bien, dirait tous ceux à quoi va le conduire ce baptême, et notamment, eh bien, ce baptême de sang. Ce baptême de sang, il est venu pour être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas sa hâte de le recevoir, et quel est ce baptême qu'il veut véritablement recevoir, c'est le baptême de sang. Et c'est cela sans doute qu'il considère, hein. Il considère sa vie, ce que va être sa vie, sa passion, sa mort, et il prie sans doute, et bien précisément pour tous ceux pour lesquels il va vivre, pour lesquels il va prêcher, pour lesquels il va souffrir, pour lesquels il va mourir, là, dans l'instant de son baptême, il prie pour eux. Ouais. Et sans doute aussi, veut-il nous donner l'exemple, eh bien, que le baptême ne suffit pas. Que le baptême ne suffit pas. C'est bien d'être baptisé. Mais le baptême ne suffit pas pour aller au ciel. Il faut aussi y joindre la prière. Voilà. Après le baptême, eh bien, il faut continuer à, si on peut dire, à développer toutes ces virtualités, ces puissances qui sont confiées à notre âme par le baptême et essentiellement par la prière. Et élever nos âmes vers Dieu pour qu'effectivement, eh bien, on puisse les arracher à toutes ces concupiscences de la terre, cette pesanteur, hein, et nous élever vers Dieu et donc finir dans l'éternité céleste. Et puis ensuite, bien sûr, il y a cette colombe, la deux colombes là, qui vient planer au-dessus de notre Seigneur, qui n'est sans doute pas, quoi qu'en pense saint Augustin. Saint Augustin pense que c'était une vraie colombe avec donc des plumes et tout ça. Bon. Mais il ne semble pas, il semble que ce soit simplement un signe céleste, un signe miraculeux, bien sûr, hein, pour manifester la présence de l'Esprit Saint, hein, la troisième personne de la Sainte Trinité. Il y a tout un symbolisme là, attaché à cette colombe, mais c'est un petit peu trop long de vous le lire. Ouais.